Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, la dernière de l'année. Oh là 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 là, je sais que vous êtes triste, mais non, vous inquiétez pas, pendant 2 heures, on va vous donner le sourire, au moins pendant 15 jours. Voilà, comme ça, après on se retrouvera début janvier avec plein de chocolat dans le ventre, comme beaucoup autour du plateau. Voilà, à commencer par Benoît Boutron, comme tous les jours. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Bah toi, t'as le sourire, moi je suis un peu triste et nostalgique déjà.
Bah t'es à l'image de ton polo qui est dégueulasse.
Non, il est bon.
Ouais, il est triste, il est d'un triste.
Non, pourquoi?
Ah bah t'es dans l'air du temps.
Ouais. Un beau polo marron.
Marron, Manu, c'est la classe.
Manu, c'est la classe.
Bon, Manu Petit avec nous. Salut Manu.
Ouais, ça va, nickel.
Manu, tout de cuir. On sait où il va finir. Hein. La soirée.
C'est paf, soit c'est.
Avant,
classique pour moi.
Un biker.
Avant, ça, je le mets, tu vois, quand je dois faire des soirées officielles, tu vois, où je dois rencontrer des gens importants, tu vois.
Ouais, mais tu sais ce que c'est la différence.
Et ça, tu mets ça pour les soirées.
Genre un peu plus. Ouais, tu vois, moins de gens importants, ou quand ils sont cachés avec un masque.
La différence, c'est que tu serais pas ridicule avec ma tenue. L'inverse, bon, moi, avec la tête de mort sur le.
Non, je te vois pas.
Avec le blouson en cuir à la chaîne avec la tête de mort,
moi, je te vois pas.
Je suis sûr que ça fera plaisir à ta femme.
Il y a un
rock'n'roll chez toi.
Il y en a un qui l'a, le côté rock'n'roll, avec tous ses tatouages.
Bien sûr.
C'est Benoît Costil. Salut Benoît.
Salut Jérôme.
Salut Benoît.
Salut Benoît et à son polo dégueulasse, du coup. Bonsoir à
Manu.
C'est un cadeau de ma femme.
Non,
c'est pas vrai.
Il est beau.
Non, mais ça va, ça te va bien.
Juste
que tu muscles un peu dessus.
Non, je suis costaud. Ouais. Là, tu vois pas, mais je suis costaud.
Arrête, c'est pas ta femme. Et c'est un truc CA.
Alors,
c'est un truc CA, c'est grand, sûr. Non, ça, c'est un truc. Dessous, en fait. C'est un truc cadeau, là, tu sais, quand tu vas dans les trucs,
ils
t'offrent ça.
T'achètes un.
Manu.
À mon avis, c'était les soldes, il y a pas de.
Non, t'achètes un parfum, ils t'offrent ça. Je l'ai vu, Sephora.
Il est très bon, mon polo. Vous allez voir sur les réseaux.
Il est bien.
Juste quand même. En saison. Mon polo, il est pas bon, en plus tu sens pas bon. C'est ça, ce que tu veux dire, Jérôme.
Qu'est-ce qu'il a?
C'est que tu as le polo, le parfum avec le polo en même temps.
Plaisante.
Alors, Grand Roten sans flamme, à 19h, on va lancer la Coupe d'Afrique des Nations sur RMC, incroyable, RMC Radio officielle. Est-ce que le Maroc résistera à la pression? On sera en direct de Rabat avec Nicolas Pelletier.
T'as la pression, toi, en tant que Marocain?
Je suis tendu, très très tendu. Et Younes Belhanda sera avec nous, ancien international marocain. Il a disputé 3 Coupes d'Afrique, la Coupe du Monde. Il nous dira tout donc sur ce qui attend le Maroc sur cette magnifique compétition. À 18h45, bon bah forcément on va reparler de Kylian Mbappé. Pas une semaine sans Mbappé. Il peut battre un record ce week-end face à Séville. Le nombre de buts inscrits sur une année civile sous le maillot du Real Madrid, il est à 58 buts, 59 pour Cristiano Ronaldo en 2013. Est-ce que c'est anecdotique ou symbolique? On se posera la question donc à 18h40.
Est-ce qu'il a déjà effacé toutes les légendes?
Ah bah s'il le bat, oui, il va l'effacer, Cristiano Ronaldo.
Mais qu'est-ce qu'il va effacer?
Non
mais ça va pas.
Bon, regarde pas comme ça Manu, c'était une blague.
Mais sérieux, on va faire un truc là-dessus?
Bah oui, on va faire un truc là-dessus.
Parce que ça lui tient à cœur. On a perdu Damien Comolli dans le championnat, on a récupéré Benoît Boutron dans les datas.
Vous minimisez les stats.
Non mais dans les datas, et Benoît, il est.
Garde-en sous le pied parce que on a vite des arguments, ils vont pas faire.
Oh bah oui, oui. Il a pas passé une grande semaine, Manu.
Vos arguments à vous, on les attend pour le procès à 18h30. Un procès intelligent dans Roten sans flamme. Procès de la Ligue de football professionnelle.
C'est mon
stratégie de diffusion.
C'est pour ça que c'est intelligent.
Exactement.
Moi qui dis.
Ligue 1 Plus va récupérer le 9e match de Ligue 1.
Très bonne nouvelle.
Diffusé cette saison par beIN Sport. Les avis sont différents dans la Dream Team, donc on pourra se régaler.
Il faudrait savoir ce qu'on veut, quoi, à un moment donné, non?
Bah, fais pas le débat avant le débat. On donnera ça.
Bah, j'espère qu'ils passeront l'abonnement à 50 balles hein, pour un match de plus.
Bah, non, tu verras. Et puis, c'est le jeu de Noël, à quelques jours comme ça du réveillon. C'est parti.
Gros cadeau aujourd'hui.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Aujourd'hui, on gagne du cash sur RMC. 500 euros, voire 1000 euros pour gâter vos proches, vos amis, votre famille. Et même jusqu'à 5000 euros. 5000 euros se cachent derrière l'une des cases du calendrier jusqu'au 24 décembre. Pour jouer, c'est très simple. Vous connaissez la mécanique. Vous envoyez Noël N-O-E-L au 732-16. Noël au 732-16.
C'est la dernière de l'année, il faut y aller.
Ah, il faut y aller parce que là, les gros cadeaux vont tomber. En
on plus, peut jouer, nous, ou pas? Non, on n'a pas le droit.
Si, si, tu peux. Essaye. Mais à mon avis, ils vont voir ton nom.
C'est Noël au 732-16. N-O-E-L au 732-16. Bonne chance à toi, Manu. Et bonne chance à vous.
Je connais bien la mère Noël, donc je vais gagner.
Très intéressant. 18h05.
Comme ça, tu vas la voir ce soir. Tu voyais la bûche que je vais lui offrir.
Oh, mais ça va pas. Non, mais commencez pas comme ça.
Bah, la bûche de Noël.
Oui. Et toi, non, mais ne ris pas à ça. Non, mais rigole. Arrête de rire. Non, mais non. Tenez-vous.
Ah, j'aurais pu parler des marrons aussi. Allez, mais...
Là, monsieur Petit, c'est un carton jaune. Avertissement. La dernière fois. Hein. La prochaine fois, c'est dehors.
C'est
allez,
bon,
18h05. Tout de suite, l'Empire contre-attaque à Nice.
Centre de Mathieu Hidol.
C'est un club qui aujourd'hui est touché, meurtri, et le mal a l'air profond. Quand on voit que ça part un peu dans tous les sens, il faut remettre tout le monde dans le même sens.
Sens de Mathieu Hidol, tête d'Hudson-Édouard.
Il y a eu des débordements, des crachats, des coups de poing ont été donnés, des coups de pied aussi.
Je veux donner des leçons à personne. Je pense qu'à un moment, il faut taper du poing sur la table.
Centre de Mathieu Hidol, tête d'Hudson-Édouard.
Non. Moi, je reviens pas.
Bah, tout le monde le sait, le club est en difficulté en ce moment. Le mal est assez profond.
Tête
Jim a posé une question, il m'a dit Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez pendant 5 mois le temps de faire une mission? Et je lui ai dit oui.
De renouer avec leur histoire, de renaître de leur cendre un petit peu comme un sphinx.
Oui, Manuel, je peux me permettre une petite question avant?
Oui, bien sûr. Lançons le débat.
Faire une mission, le temps de quoi? Parce que il n'a pas fini la phrase, en fait.
Le temps de.
Bah, les précisions.
Peut-être le temps de virer Francaise.
Il a deux missions dans la mission ou.
Bah, on aura l'info dans un instant.
D'accord.
Rappelons le contexte. Changement de direction sportive à Nice a été annoncé aujourd'hui. Fabrice Boquet, le président directeur général depuis août dernier, a quitté ses fonctions d'un commun accord. C'est ce qui a été publié sur le communiqué du jour. Il était directeur général depuis 2022. Il est remplacé, et c'est ça la surprise, par deux présidents historiques. Jean-Pierre Rivert, qui dirigeait le club de 2011 jusqu'à l'été dernier, et Maurice Cohen, qui lui était président entre 2002 et 2009. Nice traverse une crise profonde. 13e de Ligue 1. Dernier de Ligue Europa, 9 défaites consécutives, toutes compétitions confondues.
Et la Coupe de France.
Et la Coupe de France qui arrive ce week-end.
Qui pourrait justement.
Dans un stade d'ailleurs, Allianz Riviera.
Le sort de.
Bah, on verra. Maxime Tilliette est là, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Salut Max.
Maxime.
Jérôme, Manu,
salut Maxime. Et
également. Bonsoir à tous.
Ce petit bonbon avant les fêtes, Maxime, quel bonheur.
Ah ouais.
Alors explique-nous cette décision surréaliste. Qu'est-ce qui s'est passé encore à Nice aujourd'hui alors?
Bah déjà, factuellement, on avait rendez-vous avec Francaise, pas de joueur, encore une fois, en conférence de presse, pour parler du match de Saint-Etienne. La conférence de presse se termine. On va pour emballer le matériel. On lui dit, non, attendez encore quelques minutes, on a encore des choses à vous dire. Bon, et là, conférence de presse surprise, dans la foulée, avec donc deux présidents emblématiques niçois qui apparaissent, Jean-Pierre Rivert et Maurice Cohen. Mission commando, projet maintien, voilà, ce sont des termes qu'on a beaucoup entendus, de la bouche notamment donc de Jean-Pierre Rivert, qui retrouve la présidence 5 mois à peine après l'avoir quitté. Et pourtant, on l'a entendu dans la prod, et il affirmait il y a exactement 15 jours, dans cette même émission Rotten sans flamme, qu'il ne reviendrait pas au gym. Eh bien, on peut l'écouter.
C'est vraiment politique maintenant.
On est conscient avec Maurice que le mal est profond et qu'il y a beaucoup de travail. Et aujourd'hui, on n'a pas de baguette magique avec Maurice. On vient bénévolement, mais on ne pourra pas tout faire tout seul. Je comprends la colère, la déception, tout ce que peuvent ressentir l'environnement du club, qui est aujourd'hui extrêmement trouble. On comprend tout ça. Mais l'amour d'un club, on ne le perd jamais.
Voilà, Francaise et Florian Maurice restent, eux, bien en poste comme entraîneur et directeur sportif. Cohen et Rivert, eux, veulent redonner son âme à l'OGC Nice et aussi renouer le lien avec les supporters, puisque le fil était totalement rompu entre eux et le désormais ex-président Fabrice Boquet.
Merci Maxime, reste avec nous parce qu'il y a plein de précisions à apporter. La révolution niçoise sera-t-elle bénéfique? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, comment tu réagis à ça? Ce comeback de deux ex-présidents de Nice pour tenter de sauver le club et l'empêcher de sombrer en deuxième division.
Bah écoute, je suis sans voix par rapport à ce que m'avait dit dans l'émission Jean-Pierre Rivert il y a 15 jours. Alors après, il peut y avoir des retournements de situation, on a très bien compris. On a aussi je sais que peut-être qu'un jour il expliquera, je vais pas tout trahir tout ce qu'il m'a dit en privé Jean-Pierre, parce que j'ai beaucoup de respect pour
pour l'homme déjà. On a toujours eu une bonne relation, donc je vais pas trahir ce qu'il m'a dit et pourquoi il était parti de l'OGC Nice, mais c'est un peu surprenant par rapport à tout ce qui s'est passé sur le début de saison, son départ, les résultats, dernièrement l'analyse qu'il avait, qui était pour lui dramatique dans la situation de Nice, par rapport à tous les investissements qui sont pas arrivés, par rapport au projet qui a été mis en place, par rapport aux compétences des gens en place. Oui, mais les gens en place, ils sont encore là, du moins je suis désolé. Et là, et c'est pas parce que tu coupes la tête de Boquet, et Boquet, en effet, je pense qu'il a fait de grosses, grosses erreurs, et déjà que c'était pas, t'avais pas l'impression qu'il était président, que c'était le patron. Tu vois, il était pas respecté comme ça, ouais. Il est sorti du bois parce qu'il a été obligé dernièrement, mais trop tardivement, et je pense que c'est installé, si tu veux, une routine, malheureusement, dans le staff technique, avec les joueurs et tout ça, dans l'encadrement sportif, où ils étaient livrés à eux-mêmes. Et il n'y avait pas de patron. Et c'est bien le problème de toute société, de toute entreprise, que je veux dire, il n'y a pas que dans le football. Tu dois déjà avoir un patron tout là-haut. Le propriétaire. Donc le propriétaire, il va pas changer, c'est toujours Radcliffe. Et à l'arrivée, Radcliffe, lui, il a d'autres visions, d'autres intérêts aujourd'hui. Et on l'a très bien vu dans l'investissement. Mais après, il a mis, donc avec Jean-Claude Blanc, ils ont mis Boquet, le président. Donc on est obligé de constater qu'ils se sont trompés de ce côté-là. Donc ils rétropédalent par rapport au départ de Jean-Pierre Rivert et de Maurice Cohen. Donc le retour de Maurice Cohen. Écoute, si est-ce que ça va suffire pour sortir Nice de la crise, pour que les joueurs reprennent conscience, en effet, que bah là ils sont dans la panade et qu'ils jouent vraiment le maintien. Il va falloir se reprendre et avoir une autre conscience professionnelle qu'ils ont depuis le début. Un encadrement sportif, du moins un staff technique qui doit se remettre dedans avec une motivation bien différente, déjà dans le discours mais aussi dans les actes. Et ça, Francaise et son staff, c'est la même chose. Il n'y a pas que Francaise, hein, parce qu'il n'est pas tout seul à mettre en place une équipe la semaine et à les entraîner. Et puis il y a un directeur sportif aussi qui est Bernardo, qui parle jamais, qui a fait des grosses erreurs, qui les assume aussi. Et donc tout ça, est-ce que l'arrivée de Monsieur Cohen et de Jean-Pierre Rivert va changer la donne de ce côté-là?
Ils ont tous été confirmés aujourd'hui par la nouvelle direction.
Donc ça va peut-être changer la donne. Ils vont certainement leur demander d'avoir un autre comportement et surtout un autre discours. Et surtout d'être les patrons. Quand t'es directeur sportif, t'es le patron du sportif, bordel. Donc tu assumes de A à Z tes prises de décision au mercato d'hiver en relation avec l'entraîneur, ce qui a pas toujours été le cas. Et Manu, il est venu nous l'expliquer parce qu'il a une très bonne relation avec Francaise. Donc comme quoi le directeur sportif, il doit assumer publiquement. Et après, peut-être que ça va calmer les ardeurs de chacun, et surtout que les joueurs, ils retrouvent leur place de joueurs, pas autre chose. Ils sont pas là pour donner des leçons, ils sont pas bons depuis le début, et pour certains, ils ont une conscience professionnelle qui leur échappe depuis pas mal de mois, voire pas mal d'années, voire tout au long de leur carrière. Parce qu'à l'arrivée, vous savez de qui je parle, on peut parler de Klose, par exemple, un joueur international, sa conscience professionnelle, je pense qu'il l'a oublié une bonne fois.
Ça d'un joueur qui a atteint l'équipe de France.
Oui, d'accord, mais il l'a oublié par moment à Marseille, il l'a oublié par moment à Lens, il l'a oublié très souvent à Nice. Et lui, comme d'autres, parce qu'il n'est pas tout seul, ils doivent changer leur état d'esprit. Est-ce que Maurice Cohen et Jean-Pierre Rivert vont réussir à faire ça? Je leur souhaite. En tout cas, ce qui est sûr, et là on ne peut plus en douter par rapport à Boquet qui était là, on se demandait ce qu'il foutait là, c'est que ces deux personnes-là sont amoureux du gym. Donc ils l'ont répété, donc avec l'amour, avec la passion, peut-être qu'ils vont réveiller certains qui se sont endormis. Mais encore une fois, et là je finis et je donne la parole à Manu et à Benoît, je pense très honnêtement qu'il va falloir changer la structure sportive. Alors l'entraîneur, pour moi, le mal, il est fait, il est trop profond. Donc ça, c'est pas une victoire en Coupe de France et l'arrivée de Jean-Pierre Rivert et de Maurice Cohen qui va changer la donne. Mais surtout aussi les joueurs. Parce que il faut redynamiser le groupe. Et c'est que de la fraîcheur externe des joueurs qui va permettre à ce groupe de sortir de la torpeur. Parce que là, franchement, c'est catastrophique.
Manu, est-ce que ça peut tout changer à Nice?
Bien sûr que non. C'est un binôme qui on connaît justement leur lien avec l'OGC Nice, les supporters également. Donc aujourd'hui, il fallait quoi? Juste avant les fêtes de Noël, juste avant cette petite mini trêve de 6 jours, puisqu'ils auront 6 jours de repos les joueurs de l'OGC Nice. C'est aujourd'hui, le club est à la ramasse. La ramasse sportivement, mais également mentalement. Des joueurs, sur le match là qui arrive ce week-end, un exemple, je crois que Francaise est amputé quasiment de la moitié de son effectif.
Donc, ça veut dire dans l'investissement.
Et sur les 12 joueurs, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui peuvent jouer, mais mentalement, ils sont pas là. Ils refusent de reprendre. Il y en a beaucoup.
C'est pas en Coupe de France qu'on va les
attendre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui ont placé leur nom sur le mercato hivernal qui va commencer début janvier. Donc, je pense qu'il y avait véritablement, la nécessité, c'était indispensable d'envoyer un message fort avant les fêtes de Noël pour éventuellement rassurer certains joueurs, pour essayer de remettre le contact en fait, la communication en œuvre, et pourquoi pas les persuader de rester, de continuer au sein du club, ce qui est loin d'être garanti. Pour moi, la deuxième chose, c'est surtout la déclaration de Francaise. Il a fait un communiqué dans la presse et parmi tout ce qu'il a pu dire, il y a une phrase qui m'interpelle par-dessus tout et qui pour moi est très symbolique des problèmes que l'OGC Nice traîne depuis des mois et des mois, qui est un lien direct avec la qualité de l'effectif, pas vraiment la qualité mais surtout les options dans l'effectif à certaines positions en fait. Quand il dit on sait qu'on doit améliorer l'effectif, alors si je peux contribuer à la demande de la direction sportive à appeler des gens que je connais, que j'ai eu ou que je n'ai pas eu, bien sûr que je suis là et que je travaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme dans beaucoup de clubs et de trop souvent on voit la même chose, c'est que celui qui est en charge de l'effectif et des résultats, on lui demande jamais son avis dans la constitution d'un effectif.
Ça c'est problématique.
Donc, quand on voit les problèmes qu'il y a eu
Il a validé tous les joueurs quand même.
Hein. Oui, mais il y a quand même certains profils sur lesquels il n'était pas d'accord à la fois avec le président et avec le directeur sportif.
Ça c'est un avis ou une info?
Alors c'est pas un avis ou une info, je pense qu'il s'en est pas caché. Même si tu regardes toutes les déclarations dans la presse depuis le mois d'août, il a dit certaines choses Francaise, donc c'est peut-être passé entre les lignes auprès de beaucoup de monde. En tout cas moi il m'a pas perdu en fait. Donc ça vient conforter ce que je pense, c'est que l'arrivée de ce binôme est une bonne chose, mais c'est loin d'être gagné. Pourquoi? Parce qu'il va falloir quand même convaincre des joueurs qui, à mon avis, tu seras obligé de faire avec eux pour maintenir le GC Nice en Ligue 1.
Ça c'est sûr.
Donc là, tout le monde ne partira pas.
Tu parles de Mofi et Boga.
Exactement. Il part entre autres, mais il y en a d'autres également. Klaus également. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des joueurs sur lesquels il faut que tu comptes jusqu'à la fin de saison. Il faudra les convaincre que leur avenir à l'heure actuelle est à le GC Nice. Ouais.
Mais la clé, c'est pas l'investisseur, en fait, quand je vous entends.
Mais Ineos, excuse-moi, Benoît. Ineos, c'est ce que j'allais terminer. J'allais terminer avec Ineos et avec Radcliffe. Quand on voit le sac de problèmes, le sac à dos énorme qu'il avait avec Manchester United depuis le début de saison, et c'est loin d'être gagné également du côté de Manchester, quand tu vois encore le match qu'ils ont fait 4-4 à domicile, je souffle le chaud et le froid en permanence du côté de Manchester United. Quand tu vois les finances et le plan de restructuration qu'il a mis au sein de United à l'heure actuelle, c'est ce que j'expliquais la dernière fois quand on a parlé de l'OGC Nice. Ce club est devenu la résidence secondaire sur la Côte d'Azur de l'actionnaire. Quand on sait qu'il y a des offres sur la table de rachat justement pour l'OGC Nice et qu'il ne daigne même pas les regarder parce qu'il n'a pas de temps à consacrer à l'OGC Nice, tu peux t'apercevoir aujourd'hui que la baraque, elle a pris feu à deux étages. Il reste maintenant le dernier étage qu'il va falloir sauver. Donc c'est à lui de se réveiller. Et ça a commencé par la nomination d'un binôme au sein du club pour rassurer tout le monde.
Benoît, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que cette nouvelle direction, ça peut inverser les choses à Nice?
Et je rejoins Manu, c'est qu'il fallait bouger à un moment donné, il fallait changer quelque chose. C'était un tel bazar que à un moment donné il fallait réagir. Là on fait appel à des historiques qui connaissent le club parfaitement. La situation était quand même et est toujours hyper délicate avec les supporters aussi. Je crois qu'il y avait une reconnexion à refaire avec les supporters, mais j'ai le sentiment que c'est un chantier sans nom. Il y a des joueurs qui voulaient partir l'été dernier. Et je me rappelle notamment Jonathan Klaus, où j'avais dit que mon avis, c'était que je comprenais que le club le bloque, par exemple. Mais si je suis Jonathan Klaus, je pouvais comprendre aussi que le joueur veuille partir quand il voit le projet du club, ce qu'il était cet été et ce dont pourquoi il était venu.
Oui, mais quand tu signes un contrat, Benoît, aussi, tu es l'investissement ou pas, ton contrat, tu l'as signé en bonnet due forme et t'as pas.
Je suis d'accord avec toi, Jérôme, mais tu peux te mettre à la place du joueur aussi. Le joueur, il a signé un projet il y a un an, et le projet, tu vois qu'un an plus tard, il est différent.
Benoît, on a signé des contrats, Manu aussi.
Non, mais je suis pas d'accord. Je veux dire,
quand tu signes des contrats, le club, il peut t'annoncer. Écoute, moi, je suis bien placé pour le savoir parce que au PSG, quand j'ai signé au PSG, c'était une autre époque, hein. D'accord, on m'avait annoncé un projet avec des recrutements et tout ça, comme quoi, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire.
On parle de Rolando quand si j'ai signé avec la famille Trio avec M6. Oui.
Et c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Mais sauf que
moi, j'avais pas l'opportunité de bouger.
L'offre de Leverkusen, financièrement et sportivement, elle est quand même beaucoup plus élevée que l'OGC Nice à l'heure actuelle. Donc tu finis ta fin de carrière, tu as 32 ans, tu finis ta carrière dans un club qui sort champion d'Allemagne.
Manu, quand tu sors de l'échec, pour moi, c'est un échec.
Un dernier contrat pour la fin de ta carrière.
Pour moi, c'est un échec, lui, à Marseille. D'accord, il est parti à Marseille. On se souvient des discours. Ils en voulaient plus et son professionnalisme a été mis en avant.
Mais pourquoi Nice l'a pas vendu ? Pourquoi tu retiens un joueur de 32 ans en fait ?
Mais parce que Nice a beaucoup investi, je pense, sur lui. Il y a eu beaucoup de ventes. Ils se sont dit, écoute, ok, on a vendu, mais toi, t'as un beau statut, t'as un beau salaire, donc tu vas rester avec nous. Et à l'arrivée, peu importe qu'il soit pas content et tout ça, tu peux pas accepter. Moi, je vais pas dans votre sens là, Benoît et Manu.
Au départ,
tu peux pas
accepter que le mec fait le projet de Nice.
Mais d'accord,
un an plus tard, il a volé en éclat le projet. Ah
oui. Mais d'accord, mais est-ce que Jonathan Clauss, il a été irréprochable depuis qu'il est arrivé à Nice ?
Je sais pas, on peut dire tout ce qu'on veut sur Jonathan Clauss, mais quand on en parle à Lens, il était irréprochable.
Mais on voit les matchs. Non, mais Benoît, on voit les matchs. Moi, encore une fois, je veux pas m'en prendre qu'à Jonathan Clauss parce que c'est pas que lui
mais
le problème.
Mais c'est un ensemble, tu vois. Mais c'est un ensemble. Bien, exactement. C'est un ensemble. Quand ton collectif, il va pas bien, quand ta direction fait pas le travail ou fait mal le travail, ça a des répercussions après sur ton staff, sur tes joueurs et ainsi de suite. Ça fait effet boule de neige.
C'est vrai.
Et j'aimerais terminer sur une chose, c'est que le président, il a fait les frais aussi de la mauvaise gestion à l'heure actuelle, ce qui se passe sur le terrain. Mais je pense que ce qui s'est passé aussi dans ce fameux bus à au retour d'un certain match où des joueurs, l'encadrement, quand tu vois. La réaction quand même a relativement tardive du club.
C'est communiqué. Tout ça qu'il lui reprochait, Manu. Il n'était pas là.
Pour ça, je pense que la confiance, elle est rompue entre lui et les joueurs.
Mais c'est sûr. Et puis, moi, je vais aller plus loin. Et avant de recevoir un auditeur, Greg, ouais. j'ai échangé aussi avec Jean-Claude Blanc. Moi, rappelle-toi, c'était avant.
J'étais là tout à l'heure.
Voilà, et ben Jean-Claude Blanc, pareil, il a pas parlé.
Il représente Ineos à l'OGC Nice.
Et il m'a dit beaucoup de choses en privé, mais en effet, là où il en voulait au président, c'est qu'il l'a nommé et c'était à lui de prendre ses responsabilités. Bah oui. C'était très souvent on a dit oui, mais Jean-Claude Blanc, il parle pas, Ineos il parle pas parce que Jean-Claude représente Ineos. Il a dit écoute, moi si on a nommé Bocquet comme président, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Mmh. Donc je savais déjà qu'il reprochait pas mal de choses. Okay. Il l'a mis en première ligne. Il a eu un certain discours. Franchement, Bocquet, moi,
j'ai rien contre lui. Je pense qu'il a fait du bon travail aussi.
Non, mais je le connais pas. Moi aussi, je suis comme toi. Mais
sauf, c'est quelqu'un compétent. Quand même.
Exactement. Sauf qu'il est peut-être compétent, mais. Franchement, sa place n'était pas président d'un club comme Nice.
Mais comment tu pouvais prévoir qu'il allait se passer ce qui allait se passer? Tu remets des historiques, tu sais qu'ils vont mieux gérer. Je pense qu'il faut aller passer par là pour relier le dialogue avec
Benoît. Benoît, t'as des postes dans le football. Quand tu connais un peu le football, et lui, je pense qu'il le connaît pas assez. C'est pour ça qu'il l'a accepté, alors qu'il avait pas les épaules pour ça. Tu sais que quand tu deviens président, encore plus d'un club comme Nice, où il y a une ferveur qui est particulière. Tu sais que quand ça se passe pas bien, ça peut être terrible comme c'est le cas en ce moment. Eh ben, écoute, tu dois analyser la situation. Allez. Si t'es quelqu'un d'intelligent, au moins avoir le recul de dire, bah, écoute, c'est peut-être pas le poste que j'espérais. Et Jean-Claude Blanc, je pense que Jean-Claude s'est trompé là-dessus.
Alors,
par contre,
Greg, en le nommant lui. Soit avec nous, Jérôme, au 32-16.
Salut, Greg.
Salut, bonsoir les gars.
Bienvenue, Greg.
Bonsoir Manu, bonsoir Jérôme. Salut, bonsoir
Benoît. Un plaisir de t'accueillir, Greg. Bon, écoute, comment tu vois l'arrivée de Jean-Pierre Rivière et de Maurice Cohen ?
Ah ben, c'est un énorme soulagement parce que déjà ça prouve que l'actionnaire il tente quelque chose, il laisse pas le club mourir. Donc déjà il y a une réaction. Après ça fait plaisir de revoir.
Il a pris son temps quand même,
l'actionnaire. Les deux Gugus là. Ouais, mais bon, il vaut mieux des fois prendre un peu son temps.
Mieux que trop tard que jamais, c'est ça que tu es en train de dire.
Mieux vaut tard que jamais. Ouais.
Ça avait bien explosé.
Il y avait
des petits
échos qu'il y avait quelque chose qui allait changer. Sur certaines émissions de supporters, on entendait quelques petits trucs, mais alors surtout pas ça. Quoi. On s'entendait pas du tout à ça. C'est une très belle surprise. Maintenant, on va voir ce que ça a donné. Pour revenir à la présidence de Fabrice Bocquet, ça allait pas du tout depuis le début. Depuis le début, il y avait pas d'élan. On était petit bas. Pour exemple, c'est peut-être passé comme ça, comme une lettre à la poste dans les médias, mais la première décision qu'il a prise, vous savez qu'est-ce que c'est ? C'est de réduire la capacité du stade. Alors qu'on peut potentiellement jouer la Ligue des Champions.
Ouais, de faire descendre les étages supérieurs en prend, plus bas, oui.
Voilà, la première décision qu'il prend, c'est réduire la capacité du stade. Alors que tous les autres clubs, quand ils jouent la Ligue des Champions, ils essayent d'augmenter leur capacité.
Normalement, ouais.
Oh là là, c'est surtout pas pour nous, quoi. Oh là là, laisse tomber.
Après, c'est un stade qui est difficile à remplir.
C'est un exemple de la mentalité, quoi.
C'est toujours difficile de remplir l'Alliance Riviera, quoi.
C'est... Oui, non, mais ouais, c'est difficile. Dire, mais sauf que si tu joues la Ligue des Champions, alors c'est très dur de se qualifier. On voit très bien que sur le plan européen, on n'est pas au niveau. Mais si tu joues la Ligue des Champions, tu reçois des équipes comme le Real, le Barça, ou je sais pas, le stade, il est plein.
Ouais, mais
sauf
que la différence est peut-être par rapport aux joueurs, au staff technique et aux supporters, comme tu es, c'est que eux, ils se sont dit, les dirigeants, franchement, nous, on va pas la jouer, la Ligue des Champions. De toute façon, on va rien faire pour la jouer parce que l'effectif s'est affaibli, ils ont vendu tout le monde. D'accord? Donc, ils ont très peu recruté. Donc, en ayant une équipe inférieure à celle que t'avais l'année dernière, comment tu pouvais espérer passer les deux tours de qualif et faire tomber Benfica? Parce que c'était contre Benfica. Bah,
heureusement d'ailleurs qu'ils sont pas qualifiés.
Mais de toute façon, ils pouvaient pas. Ils ont pas existé. Ils sont pas invités. Même en Europa League, ils sont pas invités. Même en Conférence League, ils n'auraient pas été invités, bon. De toute façon.
Merci à Greg, supporter Nice, d'être venu au 32-16. Merci à Maxime Tilliette, qui continue de couvrir l'actualité de Monaco et de Nice.
Salut. Sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai qu'il a dit quelque chose de bien. Moi, je suis content de revoir Maurice Cohen et Jean-Pierre Rivet, on est habitué, ils viennent juste de partir. Ouais. Mais Maurice Cohen, c'est quand même une figure. Ouais, moi, je me souviens, et rappelle-toi le travail de Maurice Cohen à l'époque. Hein, il a fait remonter Nice en Ligue 1, et cette équipe, elle avait du caractère, elle lui ressemblait. Non, franchement, c'était.
Il y a 20 ans, quoi.
C'était. Oui, mais c'est. Oui, mais bon.
Je vous parle d'un temps.
Ouais. Les moins de 20 ans.
Prochain match pour Nice, la Coupe de France face à Saint-Etienne. Ce sera dimanche à 14h45. Et prochain match de Ligue 1, ce sera le 3 janvier face à Strasbourg. Dans un instant, un grand procès dans Rantaine sans flamme, le procès de la Ligue de football professionnelle et de sa stratégie de diffusion de la Ligue 1. Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure de Rotten sans flamme spéciale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la dernière de l'année. Mais on se régale depuis 18h avec Manu Petit, avec Benoît Costil et Benoît Boutron dans 15 minutes.
Ah,
le halo, Jérôme.
On parlait de Kylian Mbappé. Après. Et de ce record incroyable qu'il peut battre sur une année civile. Battre le record du grand Cristiano Ronaldo. Ronaldo a inscrit 59 buts en 2013.
Là, quand tu fais des thèmes comme ça, c'est que tu t'es dit 18h45. Qu'on peut parler de quoi en fait? Non, bah non.
C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. C'est le capitaine de l'équipe de France rigole, en passe de battre un record historique. Il faut en parler dans Rotten sans flamme.
Ouais.
C'est l'actualité.
Ça secoue l'Espagne apparemment.
Ça secoue l'Espagne, tu verras avec Edgar Rollo. Ouais, bah, c'est un sujet important.
Pas que l'Espagne, l'Europe tremble.
Allez, le procès tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme.
C'est tellement dommage de faire tant d'efforts, tellement de bons matchs pour arriver en finale et ne pas jouer. Mais c'est rien passé, justement, ça le problème. Allez. Le constat est terrible et on mérite nos sifflets à la fin. Mmh. On peut perdre, ça fait partie du jeu. Mais là, aujourd'hui, il n'y a rien eu.
Le procès de Rotten sans flamme.
Comme trop souvent.
Finale de Coupe de France face à Guingamp. Désolé pour ce mauvais souvenir, Benoît Costil.
C'est grave. On aurait cru un adolescent qui parle.
Ouais. Ah non, mais on sentait la déception.
Après, l'important, Benoît, c'est que tu t'es vengé, tu l'as gagné après.
Ouais, tu veux dire l'important, c'est de participer, ça.
Non, mais tu l'as touché. C'était la finale. C'était la finale.
Bah oui, c'était la finale.
Contre Guingamp perdu. Ouais, mais après, il a regagné.
Pourquoi tu te chauffes?
Ah non, je croyais.
Non, je suis parti pour qu'il la gagne, justement.
Ah ouais, d'accord.
Je me suis sacrifié. Le sacrifice, Jérôme. Je me suis sacrifié.
Alors, la Ligue de football professionnelle.
J'ai chialé toute la nuit.
Sera donc l'unique diffuseur de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Annonce faite mardi à l'issue du collège de Ligue 1. Bein Sport, qui détient cette saison une rencontre par journée, c'est le samedi à 17h, souhaite se désengager et ne paye d'ailleurs pas la totalité de ses factures à la Ligue. La LFP n'a même pas tenté d'aller chercher un autre diffuseur. Un diffuseur externe pour le 9e match.
Et
a décidé de le récupérer. Conséquence, le tarif d'abonnement devrait augmenter de 5 euros. On passera de 14,99 euros à 19,99 euros. Nicolas Taverneau, le DG de la LFP Média, assure que les clubs percevront le même niveau de revenus. Je vous fais juste un point sur les abonnements. Actuellement, Ligue 1 Plus compte 1 100 000 abonnés. L'objectif la saison prochaine, ce sera 1 350 000. Et à moyen terme, en fin de cycle, en 2029, ce sera 1 750 000. On ouvre le procès ce soir de la LFP et de cette stratégie de diffusion. Deux procureurs, Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Benoît Costil, bonsoir.
Bonsoir.
Le défenseur de la LFP, c'est le maître Manu Petit. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Foussénou va rendre son verdict au 32-16. Salut Foussénou.
Salut Foussénou.
Salut à tous, salut l'équipe.
Bienvenue, merci d'être là Foussénou. Merci. C'est parti pour ce procès, Jérôme.
Avec l'adjoint de...
De
Bah, du président de la Ligue.
Avec Manu Petit.
Bah, oui.
Exactement. Bah, pour une fois, je me mets à la place de Vincent Labrouille. Des puissants. Ouais. Non. C'est toi, en fait.
Vrai, non, pas du tout. Valise.
Pas du tout. Bon, allez. Pas d'invective personnelle.
Moi, je suis objectif.
On y va sur ce procès.
Et donc, l'objectivité, elle est là, chez moi. C'est que
qu'est-ce qui ne vous plaît pas, M. Rotten?
Bah, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on est en train de s'apercevoir. Bon, on le savait, hein, et certains avaient été très critiques avec la chaîne de la Ligue dans le financement des clubs. C'est terrible pour les clubs aujourd'hui, et d'autant plus parce que il y a aucune visibilité, il y a surtout aucune rentrée d'argent au niveau des droits télé, donc c'est terrible. Et la nouvelle là qui tombe, c'est encore pire parce que les 80 millions que donnait Bein, même si aujourd'hui ils en donnent qu'une partie, ils donnent pas l'intégralité parce qu'ils sont mécontents. Mais je pense qu'à terme, de toute façon, il y a un contrat qui est signé, donc ils vont débloquer la somme qu'ils doivent. N'empêche que chaque année, tu vas perdre 80 millions sur un match. C'était très cher payé pour Bein, mais au moins on avait le mérite d'avoir cette rentrée là pour les clubs. Et ça, c'est une petite garantie. Aujourd'hui, donc, ils se désengagent. Pour la Ligue 1+, c'est une bonne nouvelle de récupérer l'intégralité, pas de problème. Mais est-ce que tu vas récupérer plus d'argent, plus d'abonnés, parce que tu vas récupérer un match?
Nicolas Taverneau dit que ça ne changera rien pour les clubs l'année prochaine.
Ah ben non, ça ne changera rien, ils auront zéro. Donc à l'arrivée,
pas grand-chose.
Quasiment rien. Ben, et oui, donc ça ne va rien changer. Et ça ne va rien changer dans 2 ans et dans 3 ans, et qu'on sera à la dérive complète, parce que ça va être ça de pire en pire chaque année. Mais certains présidents l'avaient annoncé, on leur est tombé dessus, on a dit oui, mais bon, ils veulent toujours bouffer dans 2 gamelles, ils veulent toujours s'arranger, tout
c'est
ça.
C'est la course au profit.
À l'arrivée, c'était le meilleur moyen, c'était d'avoir un diffuseur, peut-être différent en effet que Amazon, peut-être différent que DAZN l'année dernière, mais encore moins créer une chaîne comme ils ont voulu créer. Ça a été la facilité en quelque sorte de faire ça, de faire passer la pilule à certains clubs. Mais aujourd'hui, les clubs qui étaient pour ça, en très peu de temps, ils se sont retournés et ils se sont dit « Oh là là, là c'est catastrophique !» Et demandent aux plus petits clubs qui aujourd'hui n'étaient pas contre au départ la création de cette chaîne, aujourd'hui ils sont complètement contre.
Après, ils savaient que ça ne leur rapporterait rien sur la première année. Hein.
Oui, mais même la deuxième, encore une fois. De toute façon,
personne n'en voulait, moi, bien, Jérôme.
Mais personne n'en voulait. L'année dernière, tu avais un média, alors on les a assez critiqués d'AZN, mais ils donnaient quand même un paquet d'oseille, toi. Bon, d'accord. Avec, en plus, Bein. Aujourd'hui, t'as plus d'AZN, t'as plus Bein l'année prochaine. Je te dis que on va à la catastrophe. Alors. Et que, à force, moi, je veux bien qu'on me fasse augmenter l'abonnement, parce que de toute façon, je travaille avec la Ligue 1. Et puis, de toute façon, c'est mon train-train quotidien. Donc, à l'arrivée, je vais m'abonner aussi. Mais tu vas augmenter donc de 5 euros à peu près, de 14,90 à 19,90. Pour le français moyen, je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle.
Après, tu auras l'OM, le PSG.
Oui, d'accord, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu m'apprends tout à l'heure en faisant l'émission et en parlant de ce truc-là, tu m'as dit, oh ouais, mais c'est une sacrée affiche à 17h.
Bah oui.
Non, mais tu te fous de ma tronche ou pas?
Bah non.
Bah regarde les affiches.
Paris Saint-Germain à 17h.
D'accord, ok.
C'est pas vrai?
Ouais. Bah non, pas souvent. Non.
Bah si.
Pas souvent. Et souvent, t'as des matchs très moyens. Mais bon, si vous me dites que c'est une bonne nouvelle, allez-y.
Benoît, avance des arguments, s'il te plaît, parce que là, c'est...
Non, mais ce que je regarde, c'est que les clubs français, ils sont dans le dur depuis un moment. Ils doivent serrer la ceinture. Fort heureusement qu'on a la chance d'avoir quelques directeurs sportifs qui travaillent très bien. Et je pense à des mecs comme Mathieu Bonnemer, comme Laurent Koscielny, à Lorient, au Havre. Mais avec un budget hyper réduit, c'est qu'aujourd'hui, on fait des projections sur un certain nombre d'abonnés. Mais t'as pas de certitude. Aucune certitude si ça va suivre. Comme l'a dit Jérôme, il faut augmenter de 5 euros. Bah pour les gens, il faut les sortir les 20 balles. On verra ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, ce que je regarde là-dedans, c'est l'intérêt aussi des clubs et les moyens que peuvent avoir les clubs pour travailler, essayer de travailler le mieux possible pour avoir la Ligue 1 la plus compétitive possible. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit des clubs qui souffrent et c'est un bordel depuis un paquet de temps avec les droits TV. Ça continue.
Alors, je vois un Manu Petit.
Qu'est-ce
avec
que
un grand
c'est
sourire.
Facile pour moi, bah, évidemment.
Oui, bah vas-y.
Je vais vous citer l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Ok, donc l'offre aujourd'hui de la Ligue 1, donc Ligue 1 Plus, c'est d'augmenter de 14,80 à 19. On va dire 20. Allez, je vous fais cadeau des quelques 10 centimes d'euros.
Un centime
d'euros. Bah voilà, 20 euros. Ok. L'Allemagne, c'est 65 ou 80 euros selon l'engagement. L'Angleterre, c'est 69 euros. L'Espagne, 62 euros. L'Italie, 31. On est au-dessous de tout
ça. Il manquerait plus qu'on soit au-dessus.
Vous aviez, je vous ai entendu à maintes reprises sur les différents plateaux de télévision, même pas vous, hein, mais l'ensemble de ceux qui sont les témoins très avisés du fiasco des droits télévisuels depuis la pandémie, en sachant Mediapro, machin, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, l'historique récent.
Catastrophique, quoi.
Et tout le monde disait, mais c'est incroyable qu'à chaque fois, il n'y ait pas de visibilité pour le client qui est le supporter, celui qui finance le foot français. Donc on n'arrêtait pas de fustiger des décisions abracadabresques, assez hasardeuses, et au final on se retrouvait le bec dans l'eau avec quasiment un risque vraiment très important de faillite du football français. Aujourd'hui ils créent leur chaîne, aujourd'hui ils récupèrent l'intégralité des matchs, aujourd'hui ils sont en train justement de reprendre leur destinée en main. Vous leur reprochez.
Tu penses que c'est rentable, Manu ? C'est ça la question.
Je vais te répondre. Et ça, j'aimerais bien que tu t'arrêtes de m'interrompre.
Mais je te pose une question.
Je te réponds. Ça fait à peine un an. Je suis désolé de vous le dire, les gars. Donc, à tous les pisserois, justement, qui vont aller à l'encontre de tout ça. C'est pour ça que moi, je préfère défendre la Ligue 1 et tous ceux qui essayent de sauver le football français plutôt que de m'acharner sur eux pour des mauvaises raisons. Autrefois, c'était pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, c'est pour de mauvaises raisons. L'offre de la Ligue 1 aujourd'hui est bien plus forte avec 100% de la Ligue 1. Tu diffuses les gros clubs chaque week-end, donc les fans de foot seront faciles à recruter. 20 euros pour l'intégralité d'un championnat, ça reste très raisonnable par rapport à tous les tarifs que je vous ai cités. Attends, j'ai pas fini. C'est un produit de qualité, reconnu et admis par tous les téléspectateurs. Tu regardes à chaque fois sur tous les plateaux chaque week-end, tout le monde te le dit. C'est de la qualité. Contrairement à ce qui s'est passé avec les derniers télédiffuseurs où c'était du grand n'importe quoi, eux en revanche, ils essayent de faire de la qualité, de tirer le football français.
Oula, toi, tu as signé à Ligue 1.
Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Oula. Il faut reconnaître les choses de façon objective.
Ah bah oui.
Non, c'est pas ça. Attends, parce que j'ai pas fini. L'objectif à l'heure actuelle, c'est quoi? Ils sont actuellement à plus d'un million, 1,1 million d'abonnés. La saison prochaine, ils visent 1,3 million, ce qui est pas globalement pas irréalisable. Bah et non, la saison jusqu'en 2029, 1,7 million, ce qui est pas irréalisable non plus. À partir du moment où tu détiens l'intégralité de ton championnat, tu es obligé d'aller au bout de cette stratégie. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu récupères ta destinée, tu coupes justement le lien avec tous les téléopérateurs qui t'ont mis aussi dans la mouise, étant donné que tu as coupé avec ton télédiffuseur historique avec Canal+. Canal+, ne voulant toujours pas rentrer dans la danse. Et quand je vois les déclarations
de
Saada, j'aurais presque envie de lui dire, j'ai défendu à maintes reprises Saada, je trouve qu'aujourd'hui, ça serait bien qu'il arrête de parler justement sur ceux qui essayent de sauver le football français. Et je vais terminer avec un argument qui va vous mettre, mais alors, d'équerre. C'est qu'aujourd'hui, la justice française a condamné à la fermeture énormément de sites de streaming de IPTV.
Oui. Donc, communiqué de la Ligue aujourd'hui.
Ça tombe au même moment où il y a cette annonce. Donc, je te dis, donnons-leur la chance. Après un an de bon travail, ils sont en train d'essayer de sortir le foot français de la mouise. Ils ont besoin de support, ils n'ont pas besoin de
choisir. Je peux te poser juste une dernière question.
Les temps de parole sont terminés.
Manu, moi, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Moi, je suis pas contre toi, Manu, là-dessus, sur tout ce que tu dis.
Mais il faut les supporter, les gars. Ils essayent de s'en sortir.
Le seul problème à ça, c'est combien vont gagner les clubs. Et quand je vois les chiffres
à la création, qu'il y aurait des années de transition.
Mais c'est pas trois. Là, tu me parles de trois ans. Ça veut dire que sur les trois ans, ils vont rien gagner.
Mais ça va rien changer par rapport à cette année.
Mais comment ça va rien
changer?
Mais par rapport à cette année, par rapport à l'année prochaine,
tu penses qu'avec Bin, tu penses qu'avec trois ans,
les clubs ils sont morts.
Les 80 millions que donnait Bin, là, en augmentant de 5 euros, ils ont 1,1 million, on arrive quasiment à 60-70 millions. Donc quelque part, c'était déjà planifié avec Bin. Donnons-leur le temps de se remettre à plomb.
C'est une catastrophe. C'est nous qui remportons ce
processus. Si c'est rentable, les banques vont suivre derrière. Ils vont leur donner le temps de se remettre à flot.
Allez, foussez-nous le verdict, s'il te plaît. T'as bien fait.
Alors, là, j'ai déjà mon idée sur le verdict, d'accord. Franchement, des deux côtés, il y a des bons arguments. Mais je vais revenir sur une chose. Ça, c'est mon avis personnel. Moi, personnellement, je pense que, excusez-moi du terme, que la Ligue a merdé sur un seul point. C'est-à-dire, cette année, ils avaient Beansport comme diffuseur pour le match de 17h. Ce qu'ils auraient dû faire, à mon humble avis, je ne suis pas un businessman, ils auraient dû donner l'intégralité à Beansport, voire un canal pour les rabibouches avec eux, le match de 21h le dimanche. Comme ça, pendant un an, ils préparent bien leur chaîne. Et ensuite, l'année d'après, vu qu'ils seront bien rabibouches avec Canal distribue la chaîne de Ligue 1+. Là, je suis d'accord avec Manu, dans le sens où c'est bien d'avoir son indépendance, mais quelque part, le football français, on va pas se mentir, on a besoin de Canal+.
Mais oui, on a.
Mais Canal ne veut pas, ils n'en veulent pas.
Non, mais justement, j'ai expliqué la chose. Si tu veux, c'est simple. Monsieur le Président Maxime Saada, il a expliqué que il y a eu un préjudice qui a été créé à la, au début avec Mediapro et par la suite. Donc, pour se remettre, Maxime Saada, en bon terme, pour se remettre en bon terme avec lui, c'est quoi ? C'est que tu lui donnes le match de 21h le dimanche qui cartonnait sur Canal à l'époque. Tu lui donnes ça même gratuitement. Tu vas me dire, oui, mais c'est impossible. Mais si, parce que cette année, les clubs vont rien toucher.
Ben oui, autant exactement, ça revient au même. Ouais.
Autant le donner à Canal+, qui le diffuse pendant un an gratuitement. Comme ça, tu répares le préjudice avec Canal. Et ensuite, vous travaillez main dans la main avec Canal+.
Eh ouais, tu les fais payer. Mais Canal n'en a pas besoin, bon, de la Ligue 1.
C'est nous, merci. Tu donnes, le match tu donnes la victoire à Manu.
Ils n'en ont pas besoin. Mais il fallait pas la preuve.
Mais non, au contraire.
Saadal l'a dit.
De reprendre totalité possession de son destin, pour moi, c'est une bonne chose.
Et c'est financièrement. Allons, Jérôme, on file en Espagne. On parle de Kylian Mbappé avec Edgar Groslot, tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme avec Manu Petit, avec Benoît Boutron et avec Benoît Costil, bien sûr. On est là jusqu'à 20h, après 19h. Pas de multiplex aujourd'hui. Non, pas de multiplex, il n'y a pas de journée de championnat. C'est la Coupe de France.
Ouais.
Toujours plaisir de retrouver ces matchs de Coupe de France.
Ça démarre ce soir.
Ça sera la Cannes. La Cannes va débuter dans deux jours maintenant. Ouais. C'est quoi,
c'est dimanche, 20h, Maroc-Comores. Est-ce que le Maroc va résister à la pression? On sera avec Younes Belhanda et avec Nicolas Pelletier en direct.
La pression, toi, tu l'as à la maison. Hein.
Ah, ça, c'est sûr. Tout de suite,
ça ne bouge plus. Hein.
RMC, Roten sans flamme.
Je pense que je ne brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Je pense que l'enjeu est bien plus important que seulement enfiler des buts. Mais après, si on peut enfiler des buts, on ne va pas s'en priver. Je pense que je vais le battre. C'est quelque chose qui va arriver et je serai content quand ça arrivera.
Allô Jérôme.
Ça nous passionne. La chasse au record continue pour Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, auteur de 65 buts, club et sélection confondus en 2025. C'est seulement le quatrième joueur de l'histoire à dépasser les 60 buts sur une année. Les stats avec le Real sont folles. 58 buts en 58 matchs. Il pointe donc à un but du record absolu réalisé par Cristiano Ronaldo en 2013. Il lui faudra un doublé contre Séville ce week-end pour dépasser le Portugais. Edgar Groslot, notre correspondant à Madrid, est là. Salut Edgar.
Salut à toutes et à tous. Ça me fait plaisir parce que vous maîtrisez le plus 34, j'ai l'impression, avec le téléphone d'Allo Jérôme.
Ah oui, bah bien sûr, on t'appelle quand c'est nécessaire. Ah et là, oui, c'est nécessaire c'est, parce que on est tous
bon, hein, ébahis. Meilleur que la dernière fois. Hein,
parce en plus, ton père t'écoute.
Non, on te rappelle pas.
Exactement. Edgar, est-ce qu'on en parle en Espagne ? Est-ce que ça fait la une des journaux comme ça, le record battu ou pas par Mbappé ?
Alors, ça fera la une des journaux s'il marque, parce que évidemment que c'est quelque chose qu'on suit de très très près en Espagne depuis plusieurs semaines. À chaque fois, on fait le décompte, on dit attention, il se rapproche de Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo, évidemment, c'est toujours le record à battre, le joueur à imiter, à égaler. Maintenant, il y a tellement d'actualités autour de ce club, autour de Xabi Alonso notamment, que ça passe un petit peu derrière certaines actualités. Et pour vous donner un exemple qui illustre très très bien la situation, ce midi, il y avait une conférence de presse avec Xabi Alonso et aucun de nos confrères espagnols n'a posé une question sur le record de Kylian Mbappé, le possible record de Kylian Mbappé. Donc, c'est à la fois quelque chose qui trotte dans les têtes, mais voilà, pas forcément la priorité, surtout qu'on commence à avoir l'habitude des nouveaux records de Kylian Mbappé qui tombent depuis quelques mois.
Est-ce que ça vous fascine ou est-ce que vous trouvez ça anecdotique, vous, Manu, Jérôme?
Moi, je vais te dire la vérité, j'en ai rien à faire. Qu'il batte ce record ou qu'il ne batte pas, moi, ça ne va pas me changer ma vie.
Vu, c'est fou.
Non, mais arrête, Benoît. Déjà, si Benoît Boutron, qui est à côté de moi, n'avait pas compté le nombre de buts et combien de trucs, déjà, personne ne le saurait. Donc, ça, c'est la première chose. Après,
donc,
là.
On minimise les performances exceptionnelles.
Mais non, mais on minimise rien du tout.
Ah bah si.
Ce que je veux dire, c'est que le Kylian Mbappé, il a toujours mis des buts et beaucoup de buts dans sa carrière depuis le début de sa carrière. Et rarement autant. Pourquoi? À Paris, il enfilait des buts.
Jamais autant même.
Non, mais d'accord, mais jamais autant, mais il en a enfilé quand même. Et moi, excusez-moi, qu'il en marque 60 dans l'année avec un club, ou qu'il en marque 55 ou 50 ou 45 ou 40 ou 35 ou 30, c'est beaucoup de buts. Donc voilà. Après, non, parce que la différence, c'est quand tu marques des buts, est-ce que tu fais gagner ton équipe, est-ce qu'il gagne des trophées? À ce que je sache, pour l'instant à Madrid, c'est pas le cas. Ça, donc c'est
ça
tout.
Ça dépend pas que de lui.
Bah, non, mais ça dépend pas que de lui, Benoît. Tu as raison. Il faut une équipe autour. Mais moi, c'est pour ça que j'en ai rien à faire qui marque 60, 70 buts dans une année. C'est pour battre Ronaldo et tout ça. Parce que à l'arrivée, même s'il battait, et je lui souhaite s'il a envie de ça, parce qu'il veut battre que des records, qu'il dépasse Ronaldo sur une année. Mais est-ce qu'il va effacer Ronaldo dans la légende qui est Ronaldo au Real Madrid parce qu'il l'a effacé?
Il lui faut des trophées. Il faut qu'il ait.
Eh ben voilà. Donc on est d'accord.
Mais maintenant lui fait sa part du cadeau.
Banaliser les stats comme ça.
Et on banalise pas. Mais vous nous emmerdez avec son soulier d'or et son truc, le soulier d'or. Avant que ça soit Pichichi là, avant que ça soit Kylian Mbappé, personne savait qui était le soulier d'or. Mais maintenant que c'est Kylian Mbappé, le petit chichi, eh ben écoute, on sait que c'est Kylian Mbappé. Bravo Kylian.
On s'extasie devant les stars internationales et quand on en a un chez nous, capitaine de l'équipe de France,
on s'extasie assez. Non mais d'accord. Okay. Bah je sais pas, Manu, ce que t'en penses. Toi, tu vas être devant ta télé là pour voir s'il bat. Moi, j'ai une pression pour lui là.
Non, mais c'est tout à fait remarquable, pardon. Mais en fait, ça représente exactement tout ce que j'aime pas dans le football à l'heure actuelle.
Bah oui,
c'est que depuis, on a l'impression que le football existe depuis Cristiano Ronaldo, Messi et Kylian Mbappé, parce que tout ce qui est data et stats, on a l'impression que c'est exceptionnel. Ça reste un sport collectif, c'est très bien ce qu'il fait, mais depuis son arrivée, même s'il a réalisé des stats incroyables, qu'est-ce qu'il a gagné? Comme je viens de te dire, c'est très bien ce qu'il fait à titre personnel, mais il joue pas tout seul sur le terrain. Et puis au final, est-ce que ça permet justement de son équipe de gagner, de remporter des titres? Parce que dans 10 ans, quand on va se rappeler,
Du Real. Alors.
Non, ça permet peut-être à Xabi Alonso de garder son poste depuis quelques semaines.
Il doit être content de ça. Non, mais attendez. Si vous, ça vous convient. Kylian Mbappé batte le record de Cristiano Ronaldo et de vous extasier là-dessus alors qu'en fait il a rien gagné sur le plan collectif et qu'il était là au Real Madrid soit pour gagner la Champions League voire le Ballon d'Or et qu'au final c'est son ancien club qui l'a fait. Moi ça me bat, moi ça me bat aussi.
Manu, moi ce que je te comprends, les trophées c'est hyper important. Maintenant dans ce club où il est venu pour gagner la Ligue des Champions, lui dans sa mission, dans sa fonction, dans son rôle, il fait son taf.
J'ai pas dit ça.
Donc lui, il est irréprochable. Maintenant, il a pas Toni Kroos, il a pas Luka Modric, tous ces joueurs à côté de lui. Ça change la donne aussi quand même. En attendant, lui, il se met au niveau.
La question, c'est pas ça. C'est quoi ta question?
Est-ce que c'est juste anecdotique?
Mais de là en faire tout un flanc alors qu'en fait il a gagné quelque chose? Non, rien. Il a battu le record de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui se passe derrière?
Non mais c'est vrai.
Et reprenez le fait
Edgar,
c'est quoi la finalité en fait?
Edgar,
t'as battu le record de Cristiano Ronaldo en termes de buts.
C'est extraordinaire. J'ai une question.
Il a gagné quoi derrière?
58 matchs, 58 buts.
Qu'est-ce qu'il a gagné derrière?
Waouh, il a rien gagné. Il n'est pas l'unique responsable.
Manu, quand Cristiano Ronaldo, vas-y Jérôme.
Ouais, j'ai une question là-dessus parce que
j'aurais aimé qu'il marque la moitié des buts, il gagne un Champions League.
Vous êtes des experts en data. Cristiano Ronaldo, quand il marque, donc combien, 58 buts sur l'année, c'est ça?
Oui.
D'accord.
59, il a marqué.
59 buts sur l'année. Qu'est-ce qu'il gagne dans l'année?
Il ne gagne ni le championnat, ni la Coupe du Roi, ni la Ligue des Champions. Et à ce moment-là, il avait toujours pas gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid.
Et il vient de m'envoyer un message, il m'a dit, tu vois, cette année-là, j'ai même pas envie de
Je vais vous dire un truc. Si on avait la chance de pouvoir l'avoir en direct aujourd'hui, moi, je lui pose une question toute simple. Je dirais, Kylian, est-ce que t'es prêt?
Ça va être dur.
Est-ce que t'es prêt à ne pas gagner ce record et tu gagnes la Champions League ou tu es ballon d'or?
Manu, il va aller dans ton sens.
Eh ben, non, les gars, vous avez la réponse à votre question.
Mais tu peux pas banaliser tous ces buts.
Je dis simplement c'est que vous en faites un flanc alors qu'en fait il s'est passé rien derrière.
Il doit se retenir de mettre des buts pour gagner.
Benoît, quand tu disais lui il fait son job, tu as dit il fait son job.
Ouais.
D'accord. Donc quand Kylian, je te pose une question. Kylian, contre l'année dernière, il marque 2-3 buts.
Si tu gagnes rien, ça sert à rien tes stats.
Je pose une question à Benoît.
Et ça perd le match.
Et qui perd le match.
Tu pourras arbitrer tes petits enfants un soir de Noël.
Quand ils perdent le match, pour toi, il est pas responsable.
Non, moi, de l'extérieur.
Est-ce qu'il est responsable ou pas? Aussi. Comme les autres.
Responsable de quoi?
Lui, en tout cas, il est responsable de tout le monde, mais par contre, lui, il a fait le maximum pour gagner ce match.
Là-dessus, je suis d'accord.
Non, mais
lui, il a fait son taf, il n'y a pas de souci.
Alors, moi, je vais te dire, c'est pour ça que j'ai repris le match de Barcelone, exprès, parce qu'il avait mis 3 buts l'année dernière contre Barcelone, et ils ont perdu 4-3. Combien c'était? 4-3 ou 5-3, je sais pas.
4-3.
Voilà, 4-3. Eh ben, écoute, sur le match. Bien sûr que dans son rôle, il a marqué des buts et très bien, c'est ce qu'on lui voulait. Mais collectivement, je peux te dire qu'il était absent comme les autres. C'est pour ça qu'ils ont pris un bouillon et qu'ils ont pris 4 buts.
Donc c'est
d'accord. Donc il est aussi responsable. Et c'est pour ça que je le mets pas à côté, parce qu'il a marqué trois buts. Et j'ai cité ce match-là exprès. Et pour vous, en fait, il est pas responsable. C'est génial, en fait. C'est génial.
Si je suis dans les buts et que mon attaquant il défend pas qu'il met trois pions par match, vas-y, défends-moi.
J'en ai une autre phrase
à te balancer aussi, hein, parce que le nombre de matchs que j'ai fait où j'ai vu des attaquants sortir avec le sourire alors qu'on avait perdu, mais eux, j'avais marqué un doublé.
Mais c'est autre chose.
Est-ce qu'on peut refaire le débat?
Jérôme, il faisait pareil avec ses passes des. Il faisait le tour du terrain à la fin du match.
On pourrait le refaire, le débat?
Ouais, mais bon, par contre, c'était spectacle garanti aussi.
On refera le débat?
Mais non, mais il a raison en plus. Allez. Tu détiens le record des passes décisives en Ligue 1. Là, ouais. Ça t'a apporté quelque chose derrière?
Franchement, je suis dans l'histoire.
T'as gagné quelque chose, Manu, t'as gagné un titre,
j'ai tout gagné. Par contre, Manu, tu peux me ramener les meilleurs joueurs du monde, ils ont jamais réussi. Hein. Et les Messi, les Neymar, ils sont dans la poche gauche. Mbappé, il est dans la poche droite.
T'as pas gagné le titre.
Bonne fête à vous. Vous adorez l'Espagne, ça fait plaisir.
Vous êtes tous dans le gauche. Et ramenez-moi Neymar, Messi, qu'ils essayent encore.
Hasta luego,
hasta luego, les gars. Hasta luego.
Va résister.
Vamos,
hey, RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.